Marie Webb, Le précieux fléau, livre 4, chapitre 7, Ouvrez grand les portes vers la nuée, et que le roi entre sur son destrier. Je revins à moi, et j'ouvre les yeux au bruit d'un proche piétinement, que je supposais être celui de Bendigo, qui se serait détaché. Puis je me souvins que le sacristain l'avait emmené. Aussi me demandai-je ce que ce pouvait bien être, puisque tous les chevaux affectés aux charrettes avaient été mis à la ferme de Plage pour la journée. Je levai les yeux, et je me crus vraiment morte, puisque le paradis s'offrait à mes regards. Kester Woodsheaves me contemplait du haut de son cheval, et ses prunelles étincelantes de vie reflétaient une si chaude tendresse que si je n'avais pas été persuadée de n'être plus de ce monde, j'aurais bien pu croire qu'il m'aimait. Il paraissait un peu plus âgé, le visage plus épuré comme ciselé par son âme. Quant à ses yeux, toute la splendeur de l'Éden s'y trouvait, y compris celle en rapport avec l'apparence agréable du premier Adam. Ils me considérèrent des pieds à la tête, et je me sentais bien. Oui, attachée à cette chaise d'humiliation où aucune femme respectable n'aurait voulu être vue d'aucun homme, surtout pas de celui qu'elle aimait. Je ne ressentais cependant aucune gêne. Je ne me préoccupais plus de rien maintenant. Je ne m'inquiétais de rien. Kester était là. Qu'est-ce qui pouvait me nuire? Kester prenait les choses en main. Telle était ma foi qu'en dépit du fait qu'environ 300 personnes étaient contre moi, tandis que seul Kester était pour moi, je me savais en sécurité. J'aurais pu retourner à mon sommeil sur cette vieille chaise, comme si elle eût été un bon lit de plumes, tant mon esprit était à l'aise. « Eh bien, » dit-il enfin, « eh bien, Prue, « ma très chère, te voilà mal en point. » Et il m'offrit un petit sourire qui voulait dire « mais pas pour longtemps. » « C'est vrai, » répondis-je, et ma voix tremblait de joie. « Bien mal en point, Kester Woodsheaves. » Il jeta un regard circulaire et fit signe à Félina. Elle courut vers lui, comme si elle avait été son esclave. « Détachez-la, voulez-vous, » dit-il, montrant les liens. Tout en s'activant, elle me murmura. « Je me fiche de ce qu'ils peuvent me faire. Je ferai ce qu'il veut. C'est un homme pour qui on peut mourir. » « Y a-t-il quelqu'un d'assez amical pour s'occuper de mon cheval une minute ?» demanda-t-il. Kalar s'écria. « Moi, et volontiers. » Avant de descendre, Kester regarda la foule et dit. « Tiens, vous voilà une jolie fête, je dois dire. La dernière fois, c'était un petit taureau blanc. Maintenant, c'est une femme plus blanche qu'un lys. Je sais parfaitement qui vous pousse à faire ça. » Plusieurs baissèrent la tête, mais beaucoup étaient en colère de voir leur amusement s'interrompre. Kester alla sur Grimble. Vous et moi avons déjà eu une affaire, Grimble, dit-il. Vous êtes trop méchant et tordu pour être traité comme un homme. Si vous n'appréciez pas le traitement que je vous donne, vous pouvez vous battre avec moi quand vous voulez. Mais vous n'êtes bon qu'à être méprisé. Votre nez est un peu long, Grimble, toujours à fouiner dans les affaires des autres. En disant cela, il lui envoya un formidable coup de poing sur ce nez, et Grimble, quoi comme il était, hurla de si piteuse façon que les gens ne purent s'empêcher de rire. Ensuite, Kester arriva sur Haglet et dit « Vous êtes cache, vous faites pas les choses en secret. Je vous ai entendu hurler depuis Plash. Bon, que pensez-vous d'un combat ?» Mais bien qu'il fût si énorme, Haglet n'avait pas envie de se battre. Il tergiversait, sachant fort bien que Kester était un bon lutteur. Or, beaucoup de personnes ne connaissaient pas Kester. Et l'aurait-il connu que ça n'aurait rien changé. Et il voulait un bon spectacle. Kester comptait là-dessus. Un match de lutte, crièrent-ils tous, redevenus de plaisante humeur. Bien qu'on ne pouvait savoir si cela allait durer. Youpi! Cria le vieux Calard, tout excité. Quant aux enfants, à la vue de Kester, ils se rappelèrent leur leçon et, croisant les mains sur le ventre, déclamèrent en chœur « Le combat de taureau, c'est mal !» Ce qui m'aurait bien fait rire, si je n'avais pas été si inquiète pour Kester. « Un ring. Faisons un ring. »« Oui, les gars, il y a un coin plein de gazon par là, » dit Kester, montrant un endroit tout près de l'eau. C'est là qu'ils préparèrent le ring. Kester retira sa veste et son gilet, ce que fit aussi Huglet, mais de mauvaise grâce. Il y eut quelques paris précipités. Puis la bagarre commença. Je craignais que Huglet ne brise tous les os de Kester. Mais non, Kester était solide et un lutteur expérimenté. Et quand Huglet semblait l'avoir immobilisé et mis hors d'état de se battre, le voilà qui se sortait de sa prise, prêt à reprendre la partie. À deux ou trois reprises, Huglet le renversa et une épaule toucha presque le sol. Mais à chaque fois, Kester se dégagea d'un coup rapide et cela ne comptait donc pas. J'étais constamment dans la terreur de voir Huglet, dont la force était considérable, briser le dos de Kester et je voyais bien que c'était son intention, car il avait perdu toute retenue et n'était mu que par la haine qu'il éprouvait pour cet homme qu'il avait privé par deux fois de son sport. Je me demandais pourquoi Kester n'essayait pas, par quelque feinte, de le mettre à terre. Mais Félina murmura « Il a quelque chose en tête, Tisserand, c'est sûr. C'est pas pour rien qu'il fait durer. » Pendant la lutte, Kester ne cessait de s'approcher de l'eau, ce qui m'inquiétait, parce que la vase y était très glissante. Soudain, en un éclair, tout fut terminé. Mais comment cela se fit? Je ne l'ai jamais su jusqu'à ce jour. Kester me dit que c'était un jeu terrissant qu'il avait appris à la ville. Toujours est-il que Huglet fut propulsé si loin qu'il atteignit non pas le sol, mais l'eau. Il fut complètement immergé et quand il se démena pour sortir, ce qu'il fit avec bien des difficultés, ayant plongé de toute sa taille dans une boue visqueuse, il eut un tel éclat de rire qu'il blêmit. Et vraiment, il était comique à voir. Le meunier qui se tenait tout près sourit pour la première fois de mémoire d'homme. Comme pour dire, un autre chat à l'eau. Après ce formidable effort, Kester s'arrêta une minute pour reprendre son souffle. Puis il reprit les rênes des mains de Calard, mit le pied à l'étrier et se mit en selle. J'aimerais, commença Félina doucement, j'aimerais me retrouver sur cette selle devant vous, Tisserand. Je n'avais jamais vu, comme dans ses yeux verts, une telle supplication. Mais il n'en tint aucun compte. Prou, dit-il, je me levais. À la fête de la moisson à Sarnes, ai-je parlé de retour ou de séparation? Me demanda-t-il. De retour. Je n'ai pu que le murmurer. Viens ici alors, Prou Woodseeves. Il se pencha, il m'entoura de ses bras, et il me hissa sur la selle. Ce fut exactement comme dans le rêve que j'avais fait.
Ouvrez grand les portes vers la nuit.
Et, comme dans le rêve, il y avait Félina qui levait des yeux implorants, mais lui n'y faisait pas attention. Il y avait le bruit de la foule qui s'amenuisait, les rires, les jurons de Huglet et Grimble, les applaudissements des enfants Calard et la voix au perché du grand-père Calard qui racontait un combat de lutte de près d'un siècle. Tout s'évanouit et disparut dans l'air calme. Il n'y avait plus que la brise du soir qui jouait dans les branches, comme l'amant joue avec les longs cheveux de sa femme. En avant, vieux canasson, dit Kester, et nous nous dirigeâmes au petit galop vers les montagnes bleues et pourpres. Mais non, dis-je, il faut que ce soit séparation, Kester. Tu dois épouser une fille belle comme un lys. Tu vois bien que j'ai un bec de lièvre. Mais il ne voulait ni écouter, ni discuter. Après que j'eus repris ma plaidoirie contre moi-même un long moment, il tira sur la bride et, plongeant ses yeux dans les miens, il dit « Assez de paroles tristes. J'ai choisi mon petit coin de paradis, et c'est sur ta poitrine, ma très chère amie. » Après avoir dit ces mots, il pencha sa tête charmante et baisa mes lèvres.
Et que le roi entre sur son destrier.
Ainsi finit l'histoire de Prudence Sarne.